Bah, si, tu peux dire folle de son.
Ah oui, mais ça bloque un peu parce que je sais pas comment le dire. Comment on le dit?
Normalement.
Normalement? Folle de son, l'émission sur Radio Canu.
Oh, folle de son, du coup.
Folle de son sur Radio Canu, la plus rebelle des radios. Folle de son, la plus rebelle de...
Folle de son, l'émission Folle de son a 2 ans aujourd'hui. Nous fêtons cet anniversaire sur les circuits courts radiophoniques par souci d'économie d'énergie. Belle, Rebelle, Radio Canu et Folle de son vous offrent ce soir une débauche de création, démonstration à l'appui, les folles de son. Laurence nous a programmé au Sarrasineur.
Les folles de son. Je vais compter rapidement dans ma tête, elles sont 5. Moi, j'ai l'impression que c'est un groupe avant tout d'amis, ou de gens en tout cas qui ont envie de pouvoir s'interpeller avec une certaine tranquillité sur leurs propositions, sans être dans l'auto-justification. Donc il me semble qu'il y a déjà une base commune, une confiance, et que c'est avec cette confiance que les personnes à l'intérieur du collectif se permettent d'amener des choses qui sont pas évidentes pour chaque participant du collectif. Voilà, c'est le sentiment que j'ai eu. Là aussi, il y a des approches différentes, puisqu'il y a des gens qui sont plus ou moins artiste, plus ou moins journaliste, plus ou moins, enfin voilà. Et c'est dans ce plus ou moins, j'ai l'impression que les connivences se font.
Alors, est-ce que vous vous sentez insulté en étant des plus ou moins, Alice, Rémi?
Non, c'est assez rigolo d'entendre ça, de la manière dont on est présenté. Moi, ça me plaît plutôt, je trouve ça plutôt juste. C'est vrai qu'on vient de milieux assez différents, mais qu'on essaye, et je pense qu'on arrive, enfin j'espère, à trouver un lieu commun pour faire des propositions sonores de toutes sortes.
Anne, quand elle dit confiance, s'interpeller avec sérénité, je crois, ça me paraît assez juste, parce que c'est vrai que nos propositions parfois sont très très différentes les unes des autres, et quand on monte quelque chose ensemble, ça fonctionne toujours, chacun trouve sa place, et voilà, je sais pas si c'est ça être des amis, mais c'est comme ça que ça marche.
Laurie, c'est le paradis alors pour les folles de son?
Oui, c'est le paradis, ça y ressemble en tout cas. Oui, bien sûr, c'est vrai qu'il y a cette confiance de puis montrer à l'autre ce qu'on est en train de faire. Quand on a travaillé ensemble avec Alice sur Desnos, on y reviendra tout à l'heure, mais c'est vrai que Alice me faisait des propositions musicales, je l'entendais, du coup voilà, c'était un vrai travail commun.
Mais alors, comment ça se passe? Est-ce que vous travaillez en même temps, cette proposition musicale? Est-ce qu'elle a été retenue, Alice, quand tu as travaillé avec Laurie?
Pas vraiment. C'est ça, Alice?
Non, parce que quand même, il doit bien y avoir des désaccords de temps en temps. C'est pas possible.
Ben là, assez peu, c'est vrai, sur ce projet-là. Oui, assez peu. Non, ça s'est fait parce que Alice m'avait proposé des morceaux de piano. Et puis finalement, en fait, on s'était tourné vers une amie à elle, accordéoniste. Voilà, c'est comme ça que ça s'était joué pour cette chose-là.
Et vous entendez sonner les fourchettes sur la table de folle de son. Justement, quel est votre son préféré, les uns et les autres? On fait un petit tour de table. Allez, hop.
Oui, alors du coup, moi j'ai pas réfléchi, je laisse ma place pour le moment, je réfléchis.
Moi j'ai un peu réfléchi, le bruit des rames dans une pirogue sur un fleuve malien ou brésilien.
Waouh, c'est précis, wow. ça fait classe, on sent notre grande reporter apparaître. Alice,
Au milieu des sons, j'apprécie le silence.
Rémi,
Moi j'aime bien le son du vent dans les micros, mais très mal enregistré, pas le beau son. J'aime bien quand ça tape dans le micro. Il paraît que le son du vent rend fou en plus, donc voilà, c'est une double utilité.
Le vent du sud rend fou. Moi, mon son préféré, c'est mon doudou radiophonique qui m'accompagne depuis le début de mon parcours. Et on l'a diffusé lors de la première soirée Folle de Son qui a eu lieu un 13 janvier 2013. Premier public, les lettres de mère, extrait.
Chérie, en toute chose, il existe une dimension poétiquement sensuelle et comique ou tragique, comme ici. Les lettres de mère.
Mon cher grand.
Le 14 août 85. Ma chérie.
Genève, le 10 août 1985. Mon amour de Sonia.
Poupoune chérie, Villiers-sur-Marne, 14 octobre 1964.
Ce dimanche 5 décembre.
Lyon.
Chère Élise.
Mercredi 24, 15h.
Dimanche, 15h. Carissima.
Villiers-sur-Marne, 14 octobre 1964. Poupoune chérie, j'ai reçu les livres ce matin comme deux pauvres malheureux, honteux de leur inutilité. Je pense aller faire un tour dans les magasins. Je voudrais que ma valise soit prête pour le départ à la clinique. Robe de chambre, chemise de nuit et pantoufles pour moi. Linge pour bébé. J'ai retrouvé les petits chaussons bleus que tu as fait l'an dernier. Je vais les coudre et les orner d'un ruban. Ils me seront bien précieux. Je te prépare tes jouets et petites bricoles dans une valise. Poupées, matériel de peinture. Tu trieras ce qui t'intéresse encore. Je t'ai déjà fait ton lit pour dans 15 jours. La clinique où j'irai est tout près d'ici. Cela s'appelle le Val-Rocher et mon médecin qui fera l'accouchement s'appelle Ouyoum. Un nom à accoucher dehors. Je vais te quitter en te chargeant de bien embrasser mamie pour moi et pour nous quatre qui te faisons un gros câlin.
Soignante, aussitôt qu'une femme a accouché après un long travail, il faudrait l'envelopper dans la peau d'un mouton noir écorché vif, en appliquant celle-ci aussi chaude que possible au creux des reins, ce qui les fortifiera vivement. Et sur l'abdomen, il faut appliquer la peau d'un lièvre également écorché vif, et frictionner l'épiderme avec le sang recueilli de la gorge tranchée de l'animal. Ceci doit supprimer les dilatations dues à la grossesse. Le sang mélancolique du lièvre fait partir le mauvais sang mélancolique de la femme. Louise Bourgeois, sage-femme de Marie de Médicis. Observations diverses sur la stérilité. Perte du fruit, fécondité. Accouchement 1609.
Genève, le 5 mai 1988. Mon enfant chéri, ma reine, il y a une chanson faite pour toi, laquelle nous compte un anniversaire de 20 ans qui doit durer très longtemps et j'essaierai de me la procurer pour toi. Incapable de composer de la musique, je t'adresse quand même quelques mots en prose, avec tous mes souhaits, toutes mes pensées en ce jour, de la semaine prochaine, le 10, où tu commémoreras avec moi ta naissance. Tu ne voulais pas venir au monde, et on t'a attendu 3 semaines de plus que prévu. Puis tu as joué les Peter Pan, mais te voilà quand même muée en belle jeune fille, en voie d'être bachelière, depuis longtemps forte et solide. Bien sûr, tu célébreras ce beau jour au milieu des tracas de ton importante échéance, mais aussi avec 2 des tiens. Et les autres membres de ta famille t'accorderont leurs vœux, malgré la distance, en télépathie. Je dois ici te remercier de ton merveilleux envoi du 18 avril. et de tes lignes touchantes, et de ce disque, et de ce stylo, cette photo de toi, tant d'expressions attendrissantes de ta tendresse. J'en suis fort touchée et heureuse, et j'ai atteint le nirvana en apprenant que tu entrais à l'Université de France grâce à tes efforts et tes capacités. J'ai un petit accès de fierté pas désagréable du tout à ton égard. Que les oiseaux chantent donc et les arbres verdissent, les fleurs s'épanouissent, le soleil brille, la chaleur abonde, l'amour, l'amitié, la camaraderie se manifestent à tour de bras, d'appels téléphoniques, de visites et autres friandises. Que la vie te soit légère, le tirage au sort ayant eu lieu hier et t'ayant épargné le pire, souhaitons-le du moins, sois heureuse. Ce jour-là, en ce temps de jeunesse, beauté, promesse, garde longtemps ta fraîcheur d'âme, de teint, de cœur. Je n'ai pas encore envoyé ta robe, mais je vais m'en occuper. Je t'embrasse à tout rompre mon cœur et te redis joyeux anniversaire, mamie.
Bon anniversaire avec un peu de retard. Voilà une petite contribution au prochain voyage à Copenhague. J'espère que tu as de bonnes nouvelles.
Bon et heureux anniversaire à toi, ma chérie. En souvenir de ton enfance, cette petite fille te ressemble étrangement. Nous te souhaitons tous de très bons 25 ans. Ne sachant pas choisir l'objet qui te plairait, ce chèque joint pour participer à l'installation de la décoration de ton appartement. Vaisselle, linge de maison, bibelot, carte d'anniversaire en imprimé, papa et maman.
Avec les voix d'Alice Azad-Cagnan, Christophe Agnette, Florence Trossa, Bernard Wall, Béatrice Audry, Bob X, Anne Kerléo, Maryse Bernard, Marie Trépied et François M. à l'accordéon. Depuis 2 ans, les folles de son marchent en biais et se glissent dans les interstices au sommaire de cette émission « Les minorités à en devenir folles ». C'est le spectacle sans voix. Le fol des poètes, Robert Desnos, Franck Etienne. La folie douce, la folie brutale, de la bouche, du sexe, avec une performance en direct pour la première fois, texte X. Un cerveau particulier soupçonné de folie, l'encéphalopharce. Et enfin, un cadeau de dernière minute, un micro posé sur la fenêtre, l'un à Nicosie, l'autre à Alger. Folle de son fête son anniversaire à tympan ouvert. Les soirées folles de son, ce sont les clowns qui en parlent le mieux. Sébastien Petitmal, c'est pas trop pénible ces soirées ?
Tout pénible et pas du tout fatigant, au contraire, c'était très reposant même, voilà, c'était se reposer ensemble en fait, face à un objet sonore, et du coup d'être dans le silence ensemble, ça m'a fait beaucoup beaucoup de bien en fait, d'être dans une écoute commune, le fond m'intéresse, mais la forme, elle fait partie aussi pour moi de ça, de folle de son, de ce que vous faites, de votre travail quoi. Et comment on écoute, comment on perçoit ensemble.
Alors, comment on écoute ? Ça, c'est une question qui se pose notamment à propos des lettres de mère. Je me tourne vers vous, Rémi, et Alice. Rémi, comment on écoute ?
Oui, bah là, c'était intéressant parce que tu es venu avec ta pièce qui était déjà constituée, déjà finie, qui avait déjà une vie radiophonique aussi. Les lettres de mère qui avaient été écrites, etc. Donc nous, finalement, on arrive dans un espace où on est invité et puis on se demande comment servir cette pièce. Et en fait, nous, avec Alice, déjà, on s'est rencontrés au Conservatoire de Villeurbanne en école de musique concrète. Donc on a une approche un peu particulière qui consiste à, voilà, pour mettre en valeur une pièce, à la spatialiser. Donc en arrivant dans ce lieu un peu particulier, qui était un peu petit, carré, fermé, on s'est dit comment faire écouter les lettres de mer, qui est une pièce radiophonique dans un espace. Donc pour spatialiser le son, on avait différencié en fait les différentes formes de discours. Alors il y a à la fois de la musique dans ta pièce, il y a de la voix en direct, il y a des ambiances. Donc on avait décidé en fait, si je me rappelle bien, de mettre 3 haut-parleurs au centre de la pièce en étoile.
Enfin là, quand tu dis la pièce, le oui. lieu d'écoute.
Le dans le lieu d'écoute. Les spectateurs étaient disposés tout autour, en fait, donc en cercle, donc ils se faisaient face les uns les autres, et dans leur dos se situaient deux haut-parleurs disposés dans l'espace aussi. Donc on avait décidé de mettre les voix au centre et de rejeter après tout ce qui est ambiance, musique, plus ou moins, voilà, dans l'espace autour. Donc c'était assez intéressant comme expérience. C'est vrai que ça crée une écoute un peu particulière dans le sens où les gens se faisaient face les uns les autres et ça crée une attention particulière, une écoute particulière. Et je pense que toi aussi, Véro, tu as dû peut-être voir ta pièce sous un nouveau jour, sous une nouvelle oreille.
Oui, presque en trois dimensions. Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose sur le comment on écoute, d'une manière générale peut-être, sur Folle de Son? C'est vrai qu'on se pose cette question, non seulement on diffuse des choses, mais comment les gens les reçoivent?
C'est vrai qu'il peut y avoir des manières différentes. Là, en réécoutant les Lettres de Mer, moi c'était la première fois que je les écoutais au casque, puisque quand on est dans un studio de radio, en général, on a un casque. Et je me disais, tiens, je redécouvre complètement cette pièce que j'ai entendue plusieurs fois avec différents modes d'écoute, et ça change complètement la donne. Et c'est vrai que le fait d'écouter à plusieurs, à la fois il y avait de la pénombre, si je me souviens bien, c'était le soir, donc ça fait qu'on se voit pas non plus, enfin on voit pas nettement les visages, mais en même temps on vit l'écoute en percevant les réactions aussi des autres, et du coup ça change la manière d'écouter, ça apporte quelque chose d'extérieur mais qui vient finalement presque faire partie de l'œuvre en fait. Les conditions changent un peu l'heure à chaque fois, et je me faisais cette réflexion avec le casque aussi.
Laurie, tu veux ajouter quelque chose?
Oui, non, je ne sais pas spécialement, mais je pensais simplement à ce que tu disais sur la pénombre qu'il y avait ce soir-là à l'entre autres. C'est vrai que ces dispositifs d'écoute-là, ils permettent aussi, c'est vrai, d'être dans une espèce d'intimité parce que les lieux sont petits, hein, tout simplement, et qu'on est proche. Ils permettent aussi de fermer les yeux parce qu'on est dans une écoute sonore. Donc il y a cette espèce d'à la fois de collectif qui se forme, hein, comme celui des spectateurs au théâtre, hein, c'est le même, et à la fois on peut fermer les yeux. Donc il y a une espèce de pas d'introspection, j'aime pas trop le mot, mais quelque chose d'aller chercher de réflexion, d'auto-réflexion. Voilà, c'est ça.
Je me souviens d'ailleurs d'un spectateur qui était un de vos amis, Alex, qui nous suit depuis le début, que nous saluons. Il m'a dit qu'il n'avait pas rien du tout écouté de la pièce, mais qu'il avait tout le temps pensé aux lettres de sa mère, et j'avais trouvé ça très bien aussi comme réaction.
Tu pensais aux lettres de ta mère en décidant il y a 20 ans de créer cette pièce-là?
Ah ben c'est même le déclencheur, évidemment. Et ça a été en effet le déclencheur. Et du coup j'ai demandé à mes camarades, parce qu'on était jeunes à l'époque, et ils étaient de jeunes adultes partis dans la vie, et donc leur mère leur écrivait pour à la fois leur demander des nouvelles, donner des nouvelles des gens qui restaient, mais aussi quand même de vérifier un petit peu si tout allait bien, d'envoyer une bonne part de castration, de vampirisme, bref, la mère quoi. Et donc du coup j'ai trouvé que c'était l'historienne du quotidien quoi.
On va pas faire de la psycho à deux balles, mais ça change la donne justement de transformer ça, de créer à partir de ce matériau-là.
Ça change la donne, c'est-à-dire que au départ c'est vrai que c'était une impulsion violente, et au résultat c'était tout tendre. Alors moi j'étais un peu déçue finalement, mais où est la violence? Mais en tout cas c'est les Lettres de Mer, c'est en effet une pièce collective, en plus avec mes amis dedans, donc c'est génial. Ça, c'était le 13 janvier, mais le lendemain, c'est le 14 janvier, et dans ce même lieu où on a écouté les Lettres de Mer, on écoute les Variations de Gaston. Laurie Rouseville, tu recrées l'ambiance clandestine des poètes rebelles. Dans la pénombre d'un café, bruyant, nous tendons l'oreille.
Aujourd'hui, je me suis promenée, écrit en 1936, et paru dans État de veille. Aujourd'hui, je me suis promenée avec mon camarade, même s'il est mort. Je me suis promenée avec mon camarade. Qu'ils étaient beaux, les arbres en fleurs, les marronniers qui neigeaient, le jour de sa mort. Avec mon camarade, je me suis promenée. Jadis, mes parents allaient seuls aux enterrements et je me sentais petit enfant. Maintenant, je connais pas mal de morts. J'ai vu beaucoup de croque-morts, mais je n'approche pas de leur bord. C'est pourquoi, tout aujourd'hui, je me suis promenée avec mon ami. Il m'a trouvée un peu vieillie. Un peu vieillie, mais il m'a dit: toi aussi, tu viendras où je suis un dimanche ou un samedi. Moi, je regardais les arbres en fleurs, la rivière passée sous le pont, et soudain, j'ai vu que j'étais seule. Alors je suis rentrée parmi les hommes. Couplet de la rue Saint-Martin, paru également dans État de veille, écrit en 1943. Je n'aime plus la rue Saint-Martin depuis qu'André Platard l'a quittée. Je n'aime plus la rue Saint-Martin. Je n'aime rien, pas même le vin. Je n'aime plus la rue Saint-Martin depuis qu'André Platard l'a quittée. C'est mon ami, c'est mon copain. Nous partagions la chambre et le pain. Je n'aime plus la rue Saint-Martin. C'est mon ami, c'est mon copain. Il a disparu un matin, ils l'ont emmené. On ne sait plus rien. On ne l'a plus revu dans la rue Saint-Martin. Pas la peine d'implorer les saints. Saint-Méry, Jacques, Gervais et Martin, pas même Valérien qui se cache sur la colline. Le temps passe. On ne sait rien. André Platard a quitté la rue Saint-Martin.
Qui était André Platard ?
André Platard était un ami de Robert Desnos. Je ne sais plus exactement, je l'avais regardé il n'y a pas si longtemps, j'ai oublié, je ne sais plus très bien ce que faisait André Platard, mais c'était un ami effectivement de Robert Desnos qui a été bien sûr emmené. On est sous l'occupation, hein, donc André Platard a été déporté. Et Robert Desnos regrette évidemment cette absence terrible dans la rue Saint-Martin.
Il y a beaucoup de poètes dans la vie. Pourquoi tu as choisi Desnos ?
C'est vrai qu'il y en a pas mal. Pourquoi Desnos ?
Comment on choisit un poète peut-être ?
Je vais dire un truc très très bateau. Je ne sais pas si c'est nous qui choisissons le poète ou si c'est le poète qui nous choisit. Mais c'est vrai que ce qui s'est passé, c'est quand j'ai eu, je ne sais plus... 16, 17 ans, j'étais au lycée en tout cas, et je ne me souviens plus comment, mais j'ai ouvert un recueil de poèmes de Desnos. Et c'était la première fois que j'ouvrais un recueil de poèmes de ma propre initiative. Et ça a été une espèce de révélation terrible, un bouleversement, comme quand on rencontre quelqu'un. C'est un truc intellectuel et formidable, et Desnos, il est rentré comme ça dans ma vie. Et puis en fait, il m'accompagne depuis mes 16 ans dans tous les... C'est un compagnon de route, quoi. C'est vraiment très fort.
Tu as quel âge aujourd'hui ?
J'ai 24 ans. Bon, ça va. C'est pas terrible.
Oh, si, quand même.
Mais quand voilà. Même.
Peut-être que tous les adolescents ne sont pas attirés par Desnos. Est-ce que tu es un petit peu soit atypique, soit démodé ou pas du tout ?
Peut-être que je suis très vieux jeu, en fait. Personne ne me le dit. Non, je crois qu'il y a plusieurs choses. C'est Desnos qui sont très, très belles. Il y a bien sûr cette façon de chanter l'amitié, de chanter la camaraderie, de parler des copains. Il y a toute cette réflexion d'écriture autour de l'absence, cette présence-absence qui est très très souvent là. Le premier que j'ai lu, je me suis promenée avec mon camarade et en fait il n'est plus là. Ça préfigure presque le deuxième poème que j'ai lu. Et il y a cette absence, voilà, quelque chose qui plane, qui est là, voilà. Et puis Desnos, c'est bien sûr un poète de l'engagement et c'est pas quelqu'un qui a été encarté, c'est pas quelqu'un qui a été dans un parti, mais par contre c'est quelqu'un qui dès 34 sent la montée du fascisme et s'attelle poétiquement dans son travail poétique à le combattre, voilà. Et puis bien sûr les poèmes après de l'occupation, il sera lui-même déporté et mourra dans les camps.
Est-ce que vous vous souvenez de cette soirée ? Est-ce que vous pouvez nous décrire l'un ou l'autre, Amy, Alice ou Anne ? Il y avait une ambiance très particulière, juste rien qu'à le phénomène acoustique.
Il y avait, c'était donc à l'entre autres,
un bar
qui a un étage, et il se trouve qu'en dessous, au rez-de-chaussée, il y avait une réunion politique, avec beaucoup d'animation, et Laurie, donc, je ne veux pas dire stoïque, mais en tout cas, a tenu bon et a réussi sans micro, puisque c'était pas sonorisé. À nous. Alors, on était tous, je pense, rivés à sa voix, parce qu'il fallait vraiment faire des efforts pour pouvoir tout entendre. Mais du coup, ça donnait une qualité d'écoute, je pense, jamais atteinte, parce qu'on n'avait pas bien le choix. Donc, c'était assez particulier. C'était une belle expérience, je pense, épuisante pour Laurie, mais.
Et ça, c'était un refus d'être sonorisé, parce qu'on savait que ça pouvait arriver qu'il y ait du bruit dans la salle du dessous.
Oh, je me souviens plus du tout si c'était un refus, Rémi.
Oui, je crois que c'était...
Ah, j'avais refusé.
Oui, c'était un refus.
Ah,
ouais.
Ben voilà.
C'est bien ton style.
Ben oui.
Un refus ça sacrificiel. Okay.
Ça n'avait pas de sens. D'accord.
En tout cas, c'était très beau, de, justement, d'entendre cette poésie de Desnos retentir... dans la rue, dans nos cerveaux, dans la mémoire et dans la société. Et le théâtre dans tout ça, Laurie, pourquoi tu as lu les poèmes lors de cette soirée et pourquoi tu ne les as pas dit par cœur, joués?
Ah,
c'est la flemme?
C'est pas la flemme, mon capitaine, rien à voir. C'est juste que le rapport au théâtre est un peu compliqué pour moi, mais parce que voilà, dans les parcours, parfois, on se détache de certaines choses, et puis on en prend d'autres, et moi, le théâtre, je l'ai un petit peu mis de côté, et puis c'est surtout que j'aime beaucoup ce moment de lecture. J'aime beaucoup, beaucoup la lecture, parce qu'il y a un pupitre devant soi, il y a quelque chose à suivre et quelque chose à donner. Alors, c'est pareil au théâtre, vous me direz, mais qu'est-ce qui pourrait changer? Oui, je ne sais pas. Ce texte qui est devant les yeux et qu'il faut retraduire pour que le public, ou en tout cas ceux qui entendent, écoutent, y accèdent. Voilà. J'aime beaucoup, beaucoup cette transmission de lecture. Voilà. Qui demande un juste milieu entre dire et surtout interpréter. Voilà. C'est pas interpréter et...
Oui, et puis je pense du côté de l'auditeur, le spectateur aussi, il y a le fait que d'avoir quelqu'un en face de nous qui lit, le spectateur se concentre plus sur l'écoute, et c'est aussi pour ça que dans Folle de son, pour nous c'était important de faire une soirée de lecture, donc c'était vraiment axé sur l'écoute de poèmes, et je pense qu'en effet la lecture avec le texte devant soi permet du côté du spectateur assez inconsciemment de se concentrer vraiment sur l'audition du texte, d'entendre le texte et d'être dans une écoute attentive.
On se concentre.
Chant pour la belle saison, écrit en 1936-1937 et paru dans Commune 1938. Rien ne ressemble plus à l'inspiration que l'ivresse d'une matinée de printemps, que le désir d'une femme. Ne plus être soi, être chacun. Poser ses pieds sur terre avec agilité, savourer l'air qu'on respire. Je chante ce soir non ce que nous devons combattre, mais ce que nous devons défendre. Les plaisirs de la vie. Le vin qu'on boit avec des camarades. L'amour. Le feu en hiver, la rivière fraîche en été. La viande et le pain de chaque repas. Le refrain que l'on chante en marchant sur la route. Le lit où l'on dort. Le sommeil, sans réveil en sursaut, sans angoisse du lendemain. Le loisir. La liberté de changer de ciel. Le sentiment de la dignité et beaucoup d'autres choses dont on ose refuser la possession aux hommes.
Est-ce que tu te sens possédée par les hommes, Laurie?
Bah pas trop, moi, du coup.
Rémi, tu as toujours rêvé d'être DJ. C'est le moment. Présente-nous.
Super. Alors, on va écouter Kazé, qui est une rappeuse française d'origine martiniquaise. Elle a collaboré notamment avec Zone Libre, qui est un groupe un peu plus rock. Voilà, ses textes parlent de la France postcoloniale, des violences policières et du racisme. Donc, voilà, elle a fait plusieurs albums. Là, c'est l'album Libérer la bête. Moi, j'aime vraiment la beauté de ses textes et il y a une véritable justesse politique, et voilà, on écoute Créature ratée.
seigneur ou dépourvu de génie. Grand vainqueur à l'âme de gagneur, ou fainéant et menteur, tout ça dans un même corps réuni. Race qui réussit, espèce peut avancer, sans histoire écrite ni récit, donc sans passé. Inventeur cravaté, créateur gâté, créature ratée, sans grandeur à cravacher. Civilisateur, sensibilisé, par train de vie aisé, hectare à dévaliser. Martyr, dans la moiteur des alizés. Moteur, d'immense fortune réalisée. Amateur de belles lettres et de poésie. Frappeur de tambour avec fracas et frénésie. Grand penseur encensé, petite frappe assassin. Baroudeur résistant, quémandeur assisté. Humble sujet du Tout-Puissant, se référant au Livre Saint. Individu indécent qui dissimule à peine, et leur sexe et leur sein, et leur sang est souillé, leurs chants sont brillants, dépouillés d'humanité, leurs yeux sont fuyants. Apprenons-leur à prier Jésus-Christ sans crier, et trier la canne à sucre tout en souriant. Oui, la nature a fauté, s'est plantée en beauté. Toi, ton identité, c'est d'être la créature ratée. La nature a fauté, s'est planté en beauté. Toi, ton identité, c'est d'être la créature ratée. Que disent la science et la messe, toutes les grandes puissances du monde et la presse, que cette noirceur en présence dans la pièce nous est inférieure comme la chienne et la naisse. Bon chrétien, j'acquiesce, volontiers j'angoisse, les os glacés placés devant ce corps sans grâce, et ses cuisses sont trop grosses, ses narines embrassent chacune des extrémités de sa pauvre face. Ses fesses sont une énorme masse, conséquence, sa silhouette n'a aucune forme de classe. Sa peau, une carapace de cuir sans souplesse, lèvres si épaisses qu'elles en deviennent grimaces. La pommette est saillante, cher client, cliente, ne vous arrêtez pas à cette laideur criante. Les jungles de l'Afrique, lointaines et luxuriantes, nous offrent des spécimens de différentes variantes. Leurs femelles sont fertiles et vaillantes, dociles et idiotes, font elles-mêmes leurs paillotes. Les mâles ont côtoyé éléphants et coyotes, nourris de chasse, de pêche et de cueillette. Éloignez quand même vos fillettes. Parfois le sauvage plonge dans la démence en rage, peut réduire un humain en miettes, mais le passage du fouet le ramène au silence. Oui, la nature a fauté, s'est plantée en beauté. Toi, ton identité, c'est d'être la créature ratée. La nature a fauté, s'est plantée en beauté. Toi, ton identité, c'est d'être la créature ratée. La créature ratée. La créature ratée. La créature ratée. Être la créature ratée.
La plus rebelle de...
Et nous en venons à 100 voix. Rémi Godichaud, c'est toi qui a composé avec Laurie Roosevelt. Enfin, on ne sait pas trop comment ça fonctionne. Déjà, nous dire deux, trois mots de 100 voix. Ensuite, on l'écoutera. Mais je pense que avant de l'envoyer à nos auditeurs, il faut peut-être en dire deux mots.
Oui, bon, juste deux mots pour préciser un petit peu le dispositif. Déjà, c'est entre la performance et le spectacle vivant, je pense qu'on peut dire ça. C'est une pièce qui a été créée au Détour de Babel, qui est un festival à Grenoble. Et en fait, tout simplement, c'est un playback politique. Donc, il y a une comédienne ou performeuse qui est sur scène. Donc, c'est Laurie.
C'est moi.
Voilà, sur scène, il y a juste un micro et une chaise, et en fait, la performeuse, Laurie, va faire en playback plusieurs voix qui vont être diffusées.
Donc le son qu'on entend, c'est un enregistrement d'un live.
Je crois qu'il est très nécessaire de lier toujours les buts, de voir très clairement ce que sont les buts finaux, les racines des oppressions. Et je crois que si on regarde le sexisme, le racisme, l'exploitation économique, on voit qu'en fin de compte, les racines sont les mêmes.
Bonjour, je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui, très heureuse de votre
présence à tous. J'espère que vous êtes bien installés. Ah, j'allais oublier. Je ne suis pas une femme. On va me dire, on ne n'est pas femme, on le devient. Certes, moi, c'est raté.
Comme il y a des hommes hyènes et des hommes panthères, je serais un homme juif, un homme cafre, un homme ennemi de Calcutta, un homme poilu, pogrome, un chiot, un mandigo, un homme de Harlem qui ne vote pas.
Connaissez-vous des hétérosexuels? Oh, je suis bien de votre avis. Ils sont un peu voyantes. Ils ont tendance à s'exhiber, à faire du prosélytisme et à former des mafias. Mais après tout, chacun fait ce qu'il veut de son propre corps, n'est-ce pas? D'ailleurs, j'ai des amis hétérosexuels. Un couple, très uni, des gens adorables. Bien sûr, on ne peut pas se montrer partout avec eux. Il y a des limites à la tolérance. Et quand on a des occupations sérieuses, il ne faut tout de même pas exagérer. D'abord, personnellement, je ne voudrais pas passer pour une anormale. Reconnaissez que pour un homme, aimer les femmes, c'est bizarre. Cela s'accompagne souvent de symptômes névrotiques. Alors, il est bien nécessaire de soigner certains hétérosexuels.
Les chaussures de Laurie, on les entend, elles s'éloignent des hétérosexuels. Vous connaissez des hétérosexuels alors, Rémi?
J'en connais quelques-uns, mais je ne suis pas sûr qu'ils le soient vraiment, en fait. Je leur passe le bonjour.
Alors, c'est Alice qu'on entend notamment dans l'extrait. Et qui sont ces personnages?
En fait, ce qui est intéressant, c'est le contenu des textes, bien sûr, parce que voilà, nous, notre volonté, c'était de faire une performance qui soit anticapitaliste, antisexiste et antiraciste. Donc, on avait prévu ça. Et donc, on a fait une sélection de textes. Alors, il y a des textes qui sont glanés sur Internet, il y a des textes théoriques, il y a des textes qui ont été retravaillés, il y a des textes que l'on a écrits. Donc le premier qu'on a entendu, c'est un petit texte qu'on a écrit. Après, on avait un extrait d'Aimé Césaire. Et après, d'accord, un texte du Front homosexuel d'Action révolutionnaire. Mm-hmm. Donc, et en fait, le principe de la performance, c'est de, en quelque sorte, de créer un sujet utopique sur lequel vient s'inscrire la convergence des luttes, tout simplement. Donc, ce corps utopique, c'est Laurie qui est sur scène.
J'adore, tout simplement. Donc ça, c'était votre objectif. Et quel fil vous avez trouvé pour cheminer sur la montagne et accéder à votre objectif? Tout ce matériau, comment vous l'avez déroulé?
Bah, ça a été un long travail de collage, de montage des textes entre eux, voir comment ils pouvaient résonner, voir comment deux textes trop proches s'annulaient complètement ou ne faisaient pas dire à l'autre texte d'à côté ce qu'on voulait lui faire dire. Enfin, c'est un travail très très précis de sens politique, vraiment.
Après, ce qui était intéressant aussi, c'est que toi, ça a pu bousculer aussi dans ta pratique théâtrale la façon d'interpréter. Parce que là, on a entendu un extrait, mais il faut bien s'imaginer qu'il y a un playback et que l'intérêt essentiel réside dans la vision qu'on a. Et donc, les gens te voient te transformer au contact de ces sons en plusieurs sujets politiques.
Bien sûr, parce que c'est quand même une trentaine de voix en une demi-heure. La performance dure une demi-heure. Bon, bah, faut quand même se...
Oui, il faut quand même les dérouler, hein, les 30 voix, il faut passer de l'une à l'autre. Et c'est vrai que c'est un travail vraiment difficile, pour le coup. Surtout quand on a l'habitude au théâtre de juste sortir la voix de son corps. Et que d'un coup, en fait, on n'a plus le droit à la voix. Et que ça va être la voix des autres qu'il va falloir faire passer à l'intérieur de son corps. Donc là, c'est vrai qu'il faut un peu s'accrocher, quand même. Et puis, c'est un très, très beau travail. C'est très joli comme travail, parce qu'en fait, il faut apprendre la voix des autres. C'est pas apprendre leur texte, c'est apprendre la voix, apprendre leur rythme, leur singularité, et puis de se les coller dans son propre corps à soi. C'est beau, quoi. Enfin,
c'était magnifique à voir, en tout cas. C'était un travail au millimètre, au cordeau. Par exemple, à un moment donné, c'est la voix de Jeanne Moreau qui sort de ta bouche. Ouais. On a l'impression que c'est Jeanne Moreau. Quelle place prend la théorie dans votre quotidien ?
Par exemple, son voix, il n'a pas pu se faire sans la théorie, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est situé politiquement dans les débats universitaires sur l'intersectionnalité, donc comment s'imbriquent les différents rapports de pouvoir, mais aussi dans notre militantisme, aussi pour la convergence des luttes, etc. Donc c'est vrai que pour créer une performance comme ça, il y a un appareillage théorique qui est conséquent et qui est presque consubstantiel à la création artistique, en fait, parce que voilà. Moi, je j'ai pas l'inspiration artistique ni rien. J'ai au contact de textes de.
Mais tu lis quoi, par exemple, aujourd'hui là, sur ta table de chevet, il y a quoi?
Là, je viens de quitter, juste avant l'émission, Daniel Guérin, Fascisme et Grand Capital, qui n'a rien à voir avec ma création, mais voilà, qui est très intéressant. Mais sinon, en ce moment, je fais aussi plus un travail théorique. J'ai mis un peu une pause après Sans Voix sur la pratique, et il y a un travail théorique que j'ai entrepris donc sur la lecture de Frederick Jansson, qui est un marxiste anglo-saxon, donc qui travaille sur le postmodernisme et sur le projet de création d'un art politique radical à l'heure de la colonisation de la culture par le capital. Donc c'est le travail théorique a aussi une autonomie en soi dans ce cas-là, en tout cas. Après, je verrai comment ça influe sur ma pratique.
Laurie, tu as l'air d'accord. Tu opines du chef.
Moi j'opine du chef, ouais.
Comme vous le voyez, Folle de Son, c'est aussi des performances. Dans un instant, les Folles se lancent en direct dans une version radiophonique de la pièce Texte X d'Alice Calme. Alice Calme qui compose à l'occasion notamment cette valse du ciel, couleur sépia. Elsa a repris ses investigations tactiles en y ajoutant, ça et là, des petits baisers des plus délicieux. Mais ensuite, a repris.
Comme elle est...
Soit
quand
elle...
Deux.
Que...
Elle, les...
Je...
elle est tout un...
Quelques jours.
Que et nous, sur les...
Un.
Pour... Les...
Sûrement.
Un peu. Préliminaire.
Et... Je le...
Son envie de
fouille déjà de mon
il sent avec moi
et bon
lentement
à la
je
c'est elle
vers
un
je
puis un
me
elle j'ai tant pouvoir de caresser un peu et sentir le soyeux de ta
son
troisième
sens
au fur et à mesure toi
le
voulez plus
né
tu
dans. Anita
que
quand
un clitoris
elle
mais je lui
d'elle
bien
dans la
je
et
le
que
je crois que
du
assez
va
une
jeun
de
je moi qui
dans son
orgasme monté
elle
je
il
c'est
il
elle est
il sera il est les
n'avais je
de non, le non. Même
je
et une fois
je
me
nounou j'en eux à la place
toujours
et celui de dans
elle,
et dans le
je
et Pierre n'a été court c'est elle qui
détends-toi Bénédicte, nous sommes ici pour nous amuser, tu n'es pas à l'abattoir. personnellement, cette valse du ciel m'émeut. C'est mon tube préféré. À la fois, on a envie de danser et à la fois, on a envie de s'effondrer en larmes. Alice, est-ce que tu composes souvent du piano ?
Il y a eu un moment où j'en écrivais beaucoup.
Maintenant, moins. Mais peut-être je referai.
Et ta relation avec le meuble piano ?
J'ai grandi avec l'enfance, l'adolescence, très présent parce que j'y passais beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Et puis, depuis quelques années, il est là, mais moins présent.
Quand tu dis beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps, c'était...
Enfant, de ce qu'on m'a dit, j'y passais des heures par jour. Et ado, pareil, ça pouvait être 6 heures, 7 heures voilà, par jour.
Et alors, est-ce que tu composes aussi des textes érotiques ? Est-ce que tu écris du pornographique ?
Non, je n'écris pas du porno.
Pourtant, ces textes, ce matériau que tu nous as apporté, d'où sort-il ?
Je voudrais revenir un peu à l'origine en fait des textes, enfin de cette pièce-là, qui était en fait pour compléter un alphabet sonore auquel il manquait la lettre X. Alors naturellement ou pas, m'est venue l'idée de prendre des textes érotiques et de travailler avec cette matière. Et la pièce écrite est un peu plus systématique que ce qu'on a fait aujourd'hui, où j'ai évidé le texte et avec les parties manquantes, voir en fait ce qui pouvait rester de la narration. Voilà, en fait, peut-être l'intérêt était après porté davantage sur la narration, la superposition de plusieurs histoires et de voir voilà, ce que ça pouvait au final donner à l'écoute.
Mais ce que tu choisissais d'évider, c'était quel genre de mots ?
Les mots, en tout cas, suggestifs, on va dire, en tout cas, qui permettaient de comment est-ce qu'on peut dire ? Les noms, les verbes.
Ceux-là, tu les enlèves.
Mm.
Donc, du coup, tout le côté érotique disparaît.
Oui, il reste en fait les articulations, éventuellement des données de lieu, de temps, mais en fait, il reste essentiellement les articulations et les prépositions.
Et après, alors, comment tu restitues, comment tu te débrouilles avec toutes ces prépositions, ces articulations ? Qu'en as-tu fait dans ta bouche ? Parce que là, on l'a fait ensemble. C'était une performance en direct, mais normalement c'est pour une voix.
Pour moi c'est très systématique la lecture, du coup elle est systématique. J'avais déterminé une longueur, donc je lis pendant 3 minutes un premier texte, je coupe, je prends un deuxième, et puis je le mets en dessous, et puis j'ai fait comme ça avec 4 textes, voilà, de manière assez radicale.
Un peu comme de la broderie.
Oui,
tu me vois venir. Mais avant d'en arriver à la broderie, je voudrais qu'on reste dans l'infiniment petit, parce que pour moi ton travail en fait c'est de l'infiniment petit. Est-ce que le grand te fait peur ?
Je sais pas s'il me fait peur, peut-être. Je me suis pas posé les questions comme ça. Par rapport à l'espace, peut-être parce que je manque d'espace, ou que du coup je fais avec ce qui est autour de moi. J'ai tendance à envahir le petit espace qui est à ma disposition. Mais je sais pas.
À envahir. D'ailleurs, tu travailles où ?
Je travaille autour de mon lit, sur mon lit.
Et sous ton lit parfois, le dimanche.
Uniquement le dimanche, oui.
Et donc il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses parce que tu travailles beaucoup. Tu travailles sur quoi en ce moment ? Est-ce que tu es en train de créer une création sonore pour les folles de son ?
Pas à ma connaissance.
Juste, tu travailles sur quoi ? On ne sait pas.
Non.
km de Lyon, 200 km des côtes syriennes.
Oui.
quelques pas, le QG de l'ONU en charge de la surveillance de la zone tampon qui sépare l'île de Chypre en deux.
Chypre, et ce son merveilleux de Michel Picard avec le micro qui était posé sur le rebord de la fenêtre, et nous rentrons dans l'intérieur du cerveau avec toi, Anne Carléo, et l'encéphalopharse. L'encéphalopharse, c'est quoi? C'est une spécialité bretonne?
À moitié. Le kikafarce est une spécialité bretonne, ça veut dire viande et phare. À découvrir, pour ceux qui connaissent pas, c'est très bon. Et donc on est un peu parti de là, peut-être parce que c'est du phare écrasé, ça ressemble un peu à des cerveaux. Et puis voilà, encéphalo comme cerveau, et c'est cette création-là que j'ai faite avec mon frère Luc, c'est une histoire de cerveau en fait.
Est-ce que si je dis que ce qui nous différencie fondamentalement, c'est, c'est de l'ordre de la perception? Est-ce que c'est juste, à ton avis?
Je dirais, ça c'est un petit peu superficiel, c'est-à-dire que... Effectivement, ça va souvent se manifester comme ça, mais après c'est aussi au niveau de l'organisation. Pour essayer de résumer la chose, je parle de la... Enfin, à la base, c'est pas moi qui l'ai trouvé, mais maintenant, c'est devenu aussi mes termes, ceux que j'ai adoptés. Penser laser et penser halo, c'est un jour, en discutant avec un spécialiste, bon, moi, j'ai tout un travail de notes et d'observations que j'ai développé spécifiquement sur mon syndrome d'Asperger et essayer de comprendre, bon, déjà, le syndrome d'Asperger de façon générale, et puis, comment moi, en fonction de ça, je me suis réorganisé, puisqu'il y a ce phénomène de réorganisation pour chacun, en fait. Dans ce travail de notes, à un moment, j'étais arrivé à un point qui était que ce que j'observais, c'est que la plupart des gens ont comme une multiplicité de faisceaux de pensée. Je me disais, mais c'est fou, ils arrivent à avoir un très grand nombre de faisceaux de pensée, alors que moi, je n'ai qu'un seul faisceau de pensée. Pour donner un exemple, je cherche un livre. Dans un rayonnage de livres, je pense au... livre que je cherche. J'arrive dans le rayonnage de livres, je regarde le rayonnage de livres. Et là, il faut que j'identifie là où je suis, quel livre j'ai en face de moi et tout ça, pour voir si c'est le livre qui correspond. Quand j'identifie les livres que j'ai devant moi, ok, j'arrive à les identifier, mais à ce moment-là, le livre que je cherche en lui-même, il m'est sorti de l'esprit. Il faut que je revienne au livre que je cherche. Alors, hop, il me revient à l'esprit. Donc après, je me dis, ok, maintenant je peux voir en fonction des livres que j'ai vus, tout ça. Et là, je reviens sur les livres qui sont dans les rayonnages. Au début, je les reconnais plus. Il faut que je refasse la démarche de les reconnaître et de voir où je suis, quel livre j'ai en face de moi et tout.
Ça peut ne jamais se terminer.
Voilà. Voilà. Et des fois, j'abandonne. Ah ouais. Donc, c'est que, en fait, j'ai une pensée qui est extrêmement linéaire. C'est ça, la pensée laser. Je fais les choses en séquence. Donc, j'observais les gens comme ça et je me disais, mais c'est fou. Eux, ils arrivent à faire... ils arrivent à avoir... plusieurs faisceaux, et au bout d'un moment, mais même plein de faisceaux. Je me disais, mais combien de faisceaux de pensée ils arrivent à mener de front? Bon, c'est impressionnant. Et alors, j'en discutais avec ce spécialiste, et puis il me disait, mais attendez, c'est pas ça. Et il m'a dit, chez les neurotypiques, donc chez la plupart des gens, la pensée n'est pas du tout en faisceau. La pensée est en halo. C'est-à-dire que le champ, il est beaucoup plus diffus et beaucoup moins resserré. Donc, c'est comme si, dans leur champ de visualisation mentale, ils pouvaient faire rentrer beaucoup plus de choses. Alors que nous, c'est comme un projet de poursuite, quoi. Faut imaginer, il y a toute une scène, et puis on éteint tous les projecteurs, et puis il n'y a plus qu'un projet de poursuite. Et on ne voit plus que le visage d'un personnage. Après, on fait bouger le faisceau du projet, et puis on ne voit qu'un petit bout du décor, on voit une petite feuille d'arbre du décor, après on voit un petit bout de chaise du décor, etc. Et moi, en fait, je me sens dans cette situation-là, maintenant. Et ce que je ne comprenais pas, c'est que les gens, eux, ils voyaient l'ensemble de la scène.
Anne, c'est ta première création, finalement, c'est pas mal du tout.
Merci.
Comment tu as travaillé avec ton frère et pourquoi soudain tu as eu envie de faire ça? Parce que tu le connais depuis longtemps.
Oui, je le connais depuis longtemps. Ça n'a pas été soudain. Mon frère, il est sculpteur. Il sculpte surtout le son. Ça peut paraître un peu curieux, mais allez voir sur internet. Vous cherchez Luc Kerléou, vous trouverez ce qu'il fait. Son travail me fascine. Je le comprends pas toujours. Moi, j'ai un travail beaucoup plus académique, on va dire, de reportage. Je suis journaliste. Enfin voilà. Et j'avais envie de que nos deux pratiques se rencontrent parce que tous les deux, notre matériau, c'est le son malgré tout. Et puis, je trouve aussi qu'il a une capacité. Alors peut-être qu'on comprend pas. Quand il parle de son cerveau, de la manière dont son cerveau fonctionne, on peut se dire mais c'est quoi cette histoire. Mon frère, quand on le croise, c'est quelqu'un de. On pourrait dire qu'il a peut-être un côté original, enfin, on pourrait le qualifier comme ça d'original. D'ailleurs, il le dit lui-même, je crois, dans un autre passage de cette pièce. Mais à part ça, tout va bien. En fait, il a ce qu'on appelle le syndrome d'Asperger, qui est une forme d'autisme. Il a développé toute une stratégie pour pouvoir vivre avec dans notre monde de neurotypiques, comme il dit dans le passage qu'on a entendu. Les neurotypiques, c'est nous, ceux qui n'ont pas de syndrome d'Asperger. Et je trouve qu'il a une capacité assez remarquable à mettre des mots sur cette différence-là, qui, moi, me questionne et que je trouve finalement plutôt intéressante. Je trouve que c'est plutôt pas mal qu'on soit pas tous coulés dans le même moule. Et j'avais envie qu'on travaille autour de ça. Et puis, ça m'a vraiment amené à déplacer ma pratique parce que moi, j'imaginais qu'on allait faire arriver ces sons comme ça, en fondu, comme je le fais d'habitude dans mes reportages. Et en fait, lui m'a dit non, moi, je veux que les sons, ils fassent irruption dans la parole. Et j'ai trouvé ça assez passionnant de travailler comme ça très différemment de ce que je faisais d'habitude. Ça m'a donné envie de recommencer. Alors, c'est pas pour l'instant, il n'y a rien de programmé, mais ça viendra sans doute un jour.
Alors, Anne, théoriquement, on devait passer beaucoup plus de temps ensemble. Et voilà, je me suis laissée prendre par le temps. La pendule, j'ai une pendule dans le dos, faut dire. Donc, ce qui serait pas mal, c'est qu'on fasse une deuxième émission. Là, on peut lancer la musique. Et juste peut-être donner le site de Luc Kerléou, K-E-R-L-E-O.
Si vous tapez Luc Kerléou, K-E-R-L-E-O, vous trouverez forcément. Et puis Folle de Son a un site aussi. On peut aller voir.
Absolument. Folle de Son, www.folle, au pluriel, -de-son.com. Vous tapez Folle de Son, pareil, dans un moteur de recherche. Mais en tout cas, sans doute, vous serez au courant de nos prochaines soirées Folle de Son, où on espère vous rencontrer très vite. Merci à tous. Rémi Godichaud, Alice Calme, Anne Kerléou, Laurie Rouseville et Jean, ce technicien magnifique.
Et Véronique Macari, au micro.
L'émission Folle de Son, c'est fini. حياتي أنت فداك أنت دنيا الغد الأحلام الغد والقبل وكل الأمل تعال نجد المدى والغرام كفانا البعد وايام تعال قبل انقضاء الشباب وموت الحب وانقطاع الرذام